chers collègues, cher Philippe, cher Marie, cher Rémi, je vous invite à prendre place pour la suite de notre programme. Donc, on va écouter Céline Della Savia, qui est archiviste au département du Tarn et qui s'intéresse notamment aux questions d'archives sonores, d'archives orales, d'archives audiovisuelles, et qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous sommes toujours honorés d'avoir tous nos invités, pour parler du travail de Marie Guérin et de sa relation aux archives dans la création et dans son esthétique et aussi dans sa méthode de recherche. Ça s'appelle « De la trace à l'archive, polyphonie de récits croisés, voix VOIE-X-S d'accès à une scène entre guillemets passée ». Et ben, merci et c'est à toi.
Bonjour, donc merci Séverine. Donc comme tu l'as dit, je suis archiviste en charge des archives audiovisuelles et sonores aux archives départementales du Tarn à Albi, donc pas du tout sur ce territoire-là, depuis presque 15 ans désormais. Et depuis peu, je suis en charge des archives iconographiques aussi. Et je suis également à l'initiative d'un festival de création sonore organisé dans le village de Monestier, dans le Tarn, où je vis. Le festival a la particularité d'organiser des écoutes chez les habitants. Et c'est dans ce cadre que j'ai d'abord rencontré Marie, puisque j'ai programmé deux de ses documentaires, au cœur desquels les archives sonores occupent une place centrale, à savoir, « Même mort, nous chantons » et « Transporter », ce dernier joué en live. Et lorsque, dans le cadre de rencontres professionnelles d'archivistes sonores organisées en mai dernier, ici à Grenoble, on m'a demandé d'animer une table ronde autour du réemploi des archives sonores dans une démarche artistique, j'ai naturellement pensé à Marie et il se trouve que les rencontres ont eu lieu au moment où elle était accueillie ici en résidence à la Villa Glovette pour réaliser donc le documentaire « Les pianistes » dont il est question ici. Et donc pour moi, c'était une première résonance. Et aujourd'hui, Marie m'invite à son tour par l'intermédiaire de ce projet « Les pianistes en résonance » coordonné par Séverine Leroy à participer donc à cette journée d'études. Et donc, c'est donc en tant qu'archiviste que j'interviens aujourd'hui et non en tant que programmatrice du festival, même si toutes ces questions d'esthétique aussi dans les créations sonores m'interpellent et m'interrogent. Et je dois dire que cette invitation m'a permis un temps de réflexion qui n'est pas si courant dans un quotidien professionnel, qui m'a amené à réinterroger, bon, pas mon métier, mais finalement le matériau que je traite au quotidien dans un temps parfois très très long, qui est le temps de l'archive, et qui devient en fait un matériau que l'on questionne beaucoup moins dans une pratique professionnelle. Donc l'idée de cette intervention était d'écouter les pianistes avec une oreille d'archiviste sonore. Toutefois, je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la focale et j'ai plus largement jeté un œil aussi au-delà de l'immatériel, en prêtant attention à l'ensemble des matériaux présents dans le documentaire. Et je dois dire que cela a soulevé différentes interrogations, plus particulièrement quant aux incertitudes terminologiques pour désigner ce que j'ai choisi de nommer l'ensemble des matériaux à valeur d'archives présents dans le documentaire de Marie et qui interrogent en filigrane les notions de traces, de sources et d'archives. Évidemment, en une demi-heure, et puis je ne prétends pas avoir les capacités de répondre à cela, mais c'est vraiment en filigrane que mon intervention va toucher un peu du doigt ces trois notions, mais en aucun cas, je définirai, et j'aurai la prétention de définir ces notions qui sont complexes et traversées de plein de choses. Donc souvent, dans un quotidien professionnel, on emploie de façon usuelle des termes comme ceux de témoignage, source matériaux, source trace, document d'archives. Souvent, le terme de source vient un peu supplanter les autres et revêt ainsi un caractère polysémique. Et l'historien, je pense que c'est important de dire qu'il est rarement confronté à des traces brutes. Elles sont toujours élaborées en amont par des acteurs, des institutions de conservation, des archivistes. Et pour nourrir cette réflexion-là, au-delà des définitions légales de ce qu'est une archive, Je vous propose une citation de Jacques Derrida dans Traces et Archives. « Partout où il y a de l'expérience, il y a de la trace. Il n'y a pas d'expérience sans trace, donc tout est trace, non seulement ce que j'écris sur le papier ou ce que j'enregistre dans une machine, mais quand je fais ça, tel geste, il y a de la trace. Ce qu'on appelle l'archive suppose de la trace. Et il n'y a pas d'archive sans trace, mais toute trace n'est pas une archive dans la mesure où l'archive suppose non seulement une trace, mais que la trace soit appropriée, contrôlée, organisée, institutionnellement, politiquement sous contrôle. Le document d'archive, c'est une source primaire et il est ce que nous transmettons aux générations suivantes. Et si les archives sont préservées avant tout à des fins juridiques et historiques, elles renferment les mémoires humaines. Et la valeur d'un document d'archives peut renvoyer à une multiplicité de propriétés, d'âge, d'usage, d'authenticité, esthétique, symbolique, marchande, parfois. Et dans tous les cas, c'est en raison de sa valeur qu'un document intègre les archives et se distingue de la simple paperasse, entre guillemets. Et c'est donc sur cette base que se fera son évaluation, en fait, laquelle décidera de son sort final, tout ça encadré légalement. Donc, en tant qu'archiviste, je vous livre une définition légale aussi de l'archive, d'un document d'archive qui est donné par le Code du patrimoine, qui encadre tous ces documents que l'on conserve dans les institutions. C'est un ensemble de documents, quelle que soit leur date, leur forme, leur support matériel, produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc, les archives sont l'ensemble des documents produits dans l'exercice d'une activité pour garder trace d'une action, d'une personne et d'une organisation publique ou privée. Donc, les archives sonores audiovisuelles sont des archives à part entière. Donc, il existe une multiplicité de sources, de documents d'archives, certains parfois longtemps négligés, et j'y reviendrai, comme les sources orales. Avoir recours aux souvenirs personnels et aux entretiens enregistrés pour générer et préserver des informations originales et historiquement fiables des sources primaires n'a pas toujours été une évidence. J'ai donc tenté de comprendre en quoi les différents matériaux employés par Marie révèlent les singularités des archives moins conventionnelles que constituent les archives orales, comment ces matériaux font écho aux différentes campagnes de production considérées comme des initiatives et des périodes clés dans l'historiographie orale en France. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai écouté le documentaire de Marie, j'ai vraiment essayé de mettre en résonance tout le matériau archive qu'elle utilise, le mettre en résonance avec, à l'échelle nationale, les initiatives qui ont pu avoir lieu en termes de collecte, de campagne, d'enquête orale, pour essayer de contextualiser en fait le matériau utilisé par Marie à valeur d'archives dans un contexte plus général. Donc, par une méthode d'investigation, Marie rassemble et collecte sur le terrain et dans les archives, si l'on s'en réfère à la conclusion du documentaire, une constellation de matériaux pour tenter de composer, donc, Séverine rappelait le titre de mon intervention parce que il s'agit de donner un titre en amont d'une pensée, donc j'ai proposé celui-ci, une polyphonie de récits croisés qui constitue autant de voies d'accès à une action passée. Donc Marie mène une enquête qui nous fait suivre plusieurs pistes. D'abord sur le terrain, et elle précise qu'elle mène une sorte de braconnage, une tentative d'épuisement. Donc, on suit ainsi, en premier lieu, la piste animale, puisque Marie tisse une analogie entre l'enquête de terrain et le braconnage, ce sont ses mots, à la recherche de traces empreintes, en quelque sorte. Et elle le rappelait ce matin, les chasseurs ont constitué une clé, et une clé d'entrée sur le territoire. Et cette analogie m'a amenée à déplier les mots braconnage et les mots épuisement pour tenter de trouver un parallèle avec l'action qui consiste à faire parler aussi les archives quand on est face à ce matériau-là. Plus littéralement, braconnage renvoie immédiatement à la chasse, à la pêche aussi, mais à la chasse, et signifie diriger les chiens, les braques. Et dès l'ouverture du documentaire, il est fait mention de piste. Marie utilise ce mot piste. Et cette ouverture-là, elle est constituée de détonations, d'aboiements. Alors, je vous le, redonne à entendre.
Je me mets là, moi.
Marie fait résonner ce mot par le sonore, l'idée de braconnage, par les détonations et les aboiements. Et donc nous conduit à ces chiens qui traquent l'animal. Et l'empreinte là, de la traque, pour moi, elle est sonore. Et ce pistage, il est double et il ouvre deux temporalités qui vont rentrer en résonance. Le son des balles des chasseurs, enregistré par Marie, renvoie à sa traque à elle, contemporaine, sur le terrain, à la recherche de traces empreintes, mais aussi renvoie... peut renvoyer au son des balles de l'action passée subie par les victimes. Et les aboiements, en fait, reviennent à plusieurs moments dans son documentaire et à des moments assez clés, à 12 minutes, associés à la phrase « établir le contact à la lisière entre les mondes des vivants et des morts ». Pareil, à une trentaine de minutes, elle opère un travail de rythmique des aboiements au moment du montage radio amateur. Et dans l'idée du mot braconnage, il a cette dimension illégale aussi. Donc c'est vrai que c'est une interrogation que j'ai et je questionne aussi Marie à l'endroit de ce mot. Comme si en allant chercher auprès d'eux, donc aussi auprès des gens, on avait peut-être le sentiment de voler des informations à ceux qui ont vécu autrefois, dans les silences aussi du passé. Chercher à identifier des traces, des empreintes, comme le font les pisteurs, finalement, dans la chasse d'un animal après lesquels on envoie les chiens. On épuise l'animal traqué comme une tentative peut-être d'épuisement des sources. Scarlett Farge nomme l'objet de rareté. Et ce que permet aussi l'archive, finalement, c'est aussi d'établir le contact à la lisière entre les morts et les vivants, même si parfois on explore des archives vivantes que sont les témoignages, les témoins de faits passés. Elle nous amène aussi sur la piste policière, les traces preuves et le cadre d'investigation qu'elle pose dès le début pour mener son enquête sur le terrain, également proche à certains égards de celui d'une enquête de police judiciaire. Elle met en œuvre les moyens nécessaires à la recherche de ces traces. Elle cherche à réunir des pièces. Je cherche à réunir des pièces comme une enquête, des traces. Une pièce à conviction, comme l'objet conservé nécessaire à la recherche de la vérité dans une affaire criminelle. Elle laisse même, elle va jusqu'à laisser un message vocal à la police municipale. Bon, sans trop savoir, on ne saura pas ce qu'elle cherche exactement, mais il y a quand même, voilà, il y a cet enregistrement-là. Elle évoque la scène du crime, elle évoque aussi, notamment dans un message vocal laissé sur le répondeur téléphonique de Blandine Damieux, des témoins oculaires. Et sur ce message, elle interroge Blandine à l'endroit de la source sonore. Elle lui dit « Dans le témoignage de Philippe Blanc, on a l'impression qu'il y a eu des témoins directs, des témoins oculaires de la scène. » Donc, l'archive a une triple valeur, valeur de preuve, valeur d'information, valeur de témoignage. Certains documents peuvent notamment être saisis pour faire valoir ses droits. Et les choix terminologiques de Marie viennent susciter une interrogation concernant l'idée de vraisemblance qu'imposerait l'archive ou la véridicité supposée de ce matériau. Et je voudrais partager avec vous une citation qui est entrée en résonance lorsque je préparais cette intervention avec cette idée de preuve, finalement, qui est mentionnée par Marie elle-même dans cette sorte d'enquête qu'elle-même. Elle est tirée d'un article qui prend place dans un dossier lui-même intitulé « Archives judiciaires en question ». Voilà, et c'est pas pour rien que je vous la livre, puisque... c'est en lien avec cette analogie entre l'enquête de Marie et l'enquête aussi policière. Donc c'est un dossier qui évoque les travaux des historiens Arlette Farge et Carlo Ginzburg qui interrogent les archives judiciaires et notamment le décodage des silences de ces archives. Entre un élément de preuve et nous, donc historiens, s'interposent des codes. Et une bonne historiographie doit prêter attention aux procédés hétérogènes par lesquels nous codons ces éléments. Si l'on en croit Carlo Ginzburg, il n'existe pas de documents neutres. Toutefois, ces codes ne sont pas des prisons dans lesquelles nous serions à jamais confinés. Il nous faut comprendre les processus de codage, les différentes formes de distorsion de la preuve pour interpréter celle-ci en évaluer la fiabilité et savoir de quoi elle est la preuve. Alors, pourquoi c'est entré en résonance? Bon, vous le devinez, c'est que dans ce documentaire, vraiment, le codage occupait une place centrale, puisque Léa était aussi une chiffreuse codeuse. Et il est question de coder un message, prendre un nom de code. Et lorsqu'on parle d'archives, on parle aussi de processus de codage et de décryptage de ces archives, de leur silence aussi, des tentatives de leur donner corps et voix comme autant de voix vers le passé. Marie va, c'est la troisième piste que moi j'ai perçue, elle nous entraîne sur la piste de l'immatériel en constituant son propre corpus, on peut l'appeler comme ça, de traces témoignages à la rencontre des archives vivantes, que sont les témoins directs ou indirects. On a écouté le documentaire, donc je vais pas revenir et vous faire écouter des passages, mais les citer. Marie dit de cette histoire de la résistance que ça hante l'esprit des lieux, qu'on se la raconte et qu'au Glovette, la mémoire se glisse partout. Elle a recours à la parole des témoins, à ce qu'on appelle la mémoire source sollicitée pour tenter de croiser les sources. Elle dit « Encore une fois, je cherchais à me souvenir dans la mémoire et dans l'oubli de ce qui fut à ce moment-là, à cet endroit. » Et la qualité de témoin repose sur le fait de pouvoir dire « J'ai vu, j'y étais, j'ai entendu. » Et donc, elle nous offre plusieurs comme ça témoignages oraux, à commencer par celui de Jean-Paul Puissin, habitant du hameau des Clos, voisin des Glovettes. Donc, effectivement, lui, il dit « Je me souviens vaguement d'une dame, j'étais gamin. » Donc, il évoque aussi sa jeunesse, la distance par rapport aux fées. Elle montait avec ses vaches, elle passait par les clos, je ne saurais pas la décrire. C'était à la ferme des Glovettes, il y avait trois filles, c'est la famille Bouvier, Rosan. L'autre, c'est comment déjà? Donc, il y a cette notion d'oubli par rapport à la mémoire. La famille Rosan, le petit-fils de la dame qui avait la ferme, lui, il vous expliquera des trucs. Ils n'ont pas vraiment été touchés par la guerre, etc. Cette source nous dit, en creux, les spécificités du témoignage oral et aussi ce qu'on a pu reprocher à la source orale et qui pourtant est sa richesse aussi. Ce qu'on lit à travers ce témoignage, c'est aussi la mise en réseau des témoins, ce dont Marie a eu besoin pour mener son enquête, l'inhibition supposée des gens à raconter des faits douloureux par les familles, les conséquences de la distance avec les événements sur la mémoire, qui est une mémoire source sollicitée, là, l'oubli, le flou, la fragilité, et donc, je le disais, des éléments qui ont situé à la fois une richesse, mais qui ont été des éléments longtemps décriés dans l'historiographie, dans la discipline historique, puisque la mémoire n'a pas toujours été un matériau objet d'histoire. Dans le témoignage de Lydia Chabert d'Alix, journaliste vers laquelle les chasseurs, rencontrés donc au Glovette et sa mère, on peut aussi entendre cette précarité des fois de la mémoire. J'étais gamine, on ne se rend pas bien compte, c'était il y a longtemps. Et la transmission orale sur ce territoire se poursuit avec cette histoire qui hante les lieux et qu'on se raconte. Avec ma poume, et moi son témoignage, il m'a vraiment, puisque là il s'agit d'écouter ce documentaire avec l'oreille d'une archiviste, ma poume, il conduit une navette, alors je ne connais pas cette personne, mais et elle m'a semblé vraiment faire le lien sur le territoire, à la fois physiquement, avec son véhicule, sa navette, qui transporte les gens, mais aussi qui transporte cette mémoire avec la mise en réseau de témoins, puisque c'est lui qui lui indique, alors peut-être que d'autres personnes lui ont indiqué, son ami Yves Rosan, que Marie va aussi interroger. J'ai un collègue, il parle de Yves Rosan, et sa grand-mère a donné des vêtements de paysans à Léa et Rémi. Ça, c'est le matin, ils sont tombés sur des Allemands, ils se sont fait descendre, ils ont balancé une grenade. Lui dit que c'est au milieu de la plaine des Clos, j'ai demandé si c'était à la Croix, mais il dit non, etc. Et donc ensuite, on va entendre le témoignage d'Yves Rosan. Donc en fait, on voit que dans ce recueil en fait de témoignages pour constituer son propre matériau, la transmission s'est faite donc d'une personne à l'autre, de bouche à oreille, mais aussi d'une génération à l'autre, puisque là, il s'agit vraiment du petit-fils de Virginie qui va être nommé par Bernadette aussi dans le documentaire, qui donne des vêtements de paysan à Léa. Et donc là, c'est le témoignage qu'on entend à la fin, à peu près à 50 minutes, d'Yves Rosan. Et donc Marie va évoquer avec lui le témoignage oral de Philippe Blanc qui a retrouvé les corps. Et on le verra, Philippe Blanc, c'est un élément aussi pivot de l'enquête de Marie, puisqu'il était chef des équipes d'urgence de la Croix-Rouge, présente sur le terrain des opérations, et il a participé, il a coordonné les opérations pour évacuer les corps des personnes victimes et abattues. Mais je reviendrai sur ces documents à valeur d'archives que Philippe Blanc a aussi produits et qu'on perçoit dans ce documentaire. Donc ici, Yves Rozan interroge Marie sur le fait que Philippe ait pu mentionner dans son témoignage la présence de sa grand-mère comme témoin oculaire de la scène en disant « Il, Philippe, note que ma grand-mère Virginie y a assisté à ce crime. » Et Marie répond du tac au tac par la négative « Non ». En fait, je trouve que tous ces témoignages montrent que peuvent cohabiter une connaissance historique claire, rationalisée d'un événement et une mémoire vive, psychologiquement et affectivement sensible de ce même événement. Et pour moi, c'est aussi la richesse du témoignage oral, ce qu'on a pu lui reprocher aussi, mais c'est aussi sa force. Et ça nourrit le débat mémoire-histoire, mais en fait, c'est des notions qui peuvent tout à fait cohabiter. Et Florence Descamps dit qu'elles peuvent mener une espèce de... Elles peuvent s'engendrer mutuellement et la cohabitation peut être féconde. Donc les témoignages, finalement, le témoignage d'Yves Rozan, il recoupe, il rapporte donc les paroles transmises par sa grand-mère, il complète les paroles de Jean-Paul Puissat et le témoignage oral de Philippe Blanc, qui dit les gens du pays aussi. On retrouve le terme de paysan aussi. Donc en fait, ce témoignage oral, il nomme, il donne de l'épaisseur aux éléments du quotidien, comme des vêtements, un port d'outils, une activité agricole, une heure, une ambiance. Et finalement, les plis des silences aussi, le temps suspendu du récit comporte son lot de renseignements. Sa grand-mère n'a probablement pas écrit ce récit, mais par transmission orale, de génération en génération, ce témoignage nous parvient, et les mots nous parviennent, et la représentation aussi des groupes silencieux dont faisait probablement partie sa grand-mère, et nous dit des spécificités du témoignage oral qui tente de restituer la trame de récit des individus. Et finalement, les détails, là, nous offrent une vision plus large et plus dense du passé. Et en fait, ce que je disais ce matin, mais bon, Marie, c'est elle qui peut répondre, mais ça constitue ce matériau-là, son propre corpus de sources, ses archives. Et dans ce que Florence Descamps nomme la historienne, la boîte à outils de l'historien, il existe donc une multiplicité de sources, de documents d'archives, certains qui ont longtemps parfois été négligés ou invisibilisés, comme les témoignages oraux. En effet, il faut attendre les années 70 en France pour que les historiens emboîtent le pas aux autres sciences sociales vers un apprivoisement de la source orale. Et je vous propose un extrait d'un passage d'une émission radiophonique où le réalisateur lit à Florence Descamps, une historienne qui s'est vraiment spécialisée dans les archives orales, un extrait de l'introduction aux études historiques. Donc cette introduction, elle date de la fin du 19e et elle est produite par les chefs de file de la première école historique. Et en fait, ce passage-là d'émission de radio montre tout le poids, en fait, et les critiques faites à la source orale qui, pourtant, là, dans les récits qu'on vient d'entendre, sont précieux.
L'écriture fixe l'affirmation et en rend la transmission fidèle. Au contraire, l'affirmation orale reste une impression sujette à se déformer dans la mémoire de l'observateur lui-même, en se mélangeant à d'autres impressions. En passant oralement par des intermédiaires, elle se déforme à chaque transmission, et comme elle se déforme pour des motifs variables, il n'est possible ni d'évaluer, ni de redresser la déformation. La tradition orale est par sa nature une altération continue. Aussi, dans les sciences constituées, n'accepte-t-on jamais que la transmission écrite. La forme la plus frappante de tradition orale est la légende. Elle se produit dans les groupes d'hommes qui n'ont pas d'autre moyen de transmission que la parole, dans les sociétés barbares où les classes peu cultivées, paysans, soldats. Après même qu'un peuple est sorti de la période légendaire en fixant les faits par l'écriture, la tradition orale ne cesse pas, mais son domaine se restreint. Elle se réduit aux faits non enregistrés soit qu'ils soient secrets de leur nature, soit qu'on ne prenne pas la peine de les noter, les actes intimes, les paroles, les détails des événements. C'est l'anecdote, on l'a surnommée la légende des civilisés. Légendes et anecdotes ne sont au fond que des croyances populaires, rapportées arbitrairement à des personnages historiques. Elles font partie du folklore, non de l'histoire. Donc voilà.
Dans cet extrait, c'est très radical, on entend les critiques faites à la source orale, en raison surtout à l'époque de l'impossibilité de fixer sur un support. L'angoisse, c'était vraiment celle-là, et désormais on peut fixer. Et donc les historiens ont mis près d'un siècle à desserrer l'étau que cet anathème jette sur le témoignage oral. Donc, Marie mène un braconnage sur le terrain, mais aussi dans les archives, dans des archives préexistantes au documentaire, des archives matérielles, mais aussi immatérielles. Et comme je l'indiquais en introduction, je n'ai pas pu m'empêcher d'élargir moi-même la recherche à des sources, à un ensemble de matériaux présents dans le documentaire, et notamment ceux préexistants. Et j'ai moi-même aussi mené l'enquête, j'ai moi-même braconné en quelque sorte les archives en quête de sources pour pouvoir les contextualiser et tenter d'en saisir l'écho plus largement dans l'historiographie orale en France pour savoir d'où était issu ce matériau-là, puisque pour garantir l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité d'un document d'archive, il est nécessaire de conserver des informations relatives à son contexte ainsi qu'à celui de tout autre document connexe. Il s'agira par exemple de relever la finalité du document en question, des indications concernant son auteur, son mode d'élaboration, son contenu, son format. Et dans le documentaire, on est vraiment face à une imbrication de matériaux hybrides qui se répondent les uns les autres, en résonance donc, pour au final composer un récit choral et polyphonique. Donc Marie nous donne à voir des archives photographiques, une archive photographique en résonance avec un ouvrage édité. Donc c'est, il a été question de ça dans les archives de Maryse. C'est donc une archive photographique que Robin Tressel décrit avec la tombe de Fortune. Et en fait, elle met en résonance cette archive qu'elle elle tire de l'ouvrage de Jean-Paul Papé sur les Habelins, qu'elle lit et qu'elle fait lire aussi. Elle met en résonance, pardon, cette photographie avec des extraits de l'ouvrage de Jean-Paul Papé qu'elle lit elle-même et qu'elle fait lire aussi à Bernadette. Donc les passages, c'est « Au Glovette, les gens rentraient dans leur ferme en nous voyant arriver. Ils sont dans la terreur, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous sommes le 1er août 44. Pour gagner du temps, nous supplions les enfants de nous accompagner. Ils nous conduisent au corps d'un homme étendu, passablement mutilé. » Bon, c'est l'extrait qu'on a entendu ce matin. Et l'autre extrait est lu par Bernadette, qui nomme pour la première fois donc Virginie, la grand-mère de Yves Rozan. Puis un après-midi, assez tard, alors que plusieurs fois les gens nous alertaient, disant que les Allemands revenaient, que nous avions entendu des coups de feu, arrivés à un kilomètre du bourg, une dame nous arrête et nous avertit que les Allemands ont abattu un homme et une femme. Donc, dans mon enquête, l'origine de ces sources reste un mystère. J'ai questionné Jean-Paul Papé aussi à cet endroit, qui m'a indiqué en fait plutôt comme source des bulletins associatifs, etc. Mais donc j'ai émis plusieurs hypothèses sur l'origine de ces sources. Et j'ai d'abord pensé que ces sources pouvaient être issues du fonds du service du mémorial de l'oppression, qui est conservé donc aux archives départementales du Rhône, où il est aussi mentionné que Philippe Blanc détient des photographies. Quoi qu'il en soit, Marie associe ces récits-là et cette photographie-là au témoignage oral de Philippe Blanc qu'elle donne à entendre, qui est donc une autre source immatérielle, là, préexistante au documentaire, où Philippe Blanc, en fait, est témoin et acteur direct de l'histoire. Et donc, j'ai contacté la famille Blanc, une de ses filles, Françoise, qui m'a communiqué l'intégralité des témoignages. Philippe Blanc, lui, il a été enregistré à deux reprises sur une cassette audio. à son domicile par un certain Laurent, un élève dans les années, à la fin des années 90, en 98 probablement. Et le fait de pouvoir fixer sur un support là lui permet de réécouter son premier enregistrement.
Laurent, tu viens me voir pour me poser un certain nombre de questions sur à propos d'un exposé que tu as fait sur le Vercors pour ta classe.
Ouais.
Et de quoi s'agit-il?
J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faisiez là-haut.
Alors moi, tu vois, les événements dont tu veux que je te parle sont ceux qui touchent au Vercors. Bon, moi, je me suis trouvé être professeur à Villard-de-Lans en 1940.
Le deuxième enregistrement, parce que Laurent, qui est donc un élève probablement de lycée, revient le voir et Philippe a pu écouter le premier enregistrement qu'il a fait avec lui.
Tu m'as pris sans préparation l'autre jour et aujourd'hui nous continuons cette causerie dans mon salon où tu me demandes de te donner un peu des souvenirs de la résistance à bâtons rompus, car je n'ai pas de schéma précis, et en écoutant ta cassette l'autre jour, celle que nous avons faite ensemble, j'ai eu l'impression de t'avoir donné à la fois des choses incomplètes et des choses très personnelles. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, qui t'a sûrement choqué, tu me l'as dit un peu au téléphone, tu m'as posé ça, est-ce que cela, je peux le faire passer? Je t'ai répondu oui, mais je ne l'avais pas écouté.
Donc ça, c'est aussi la force de pouvoir fixer sur un support, c'est permettre la réécoute aussi aux personnes qu'on enregistre. Et plus largement, en fait, cette source immatérielle qui est pour l'instant conservée dans la sphère privée, qui n'est pas déposée auprès d'une institution, qui n'est donc pas librement communicable, cette source immatérielle, elle rentre en résonance puisqu'elle a été enregistrée en 80, avant la mort de Philippe Blanc, peu de temps avant, m'a indiqué sa fille. Elle entre en résonance avec, de façon plus large, si on se penche sur l'historiographie relative à l'histoire orale en France, aux années 90, une période qu'Annette Wieworka nomme l'ère des témoins, où en fait les témoignages oraux, après avoir été invisibilisés et fortement discrédités par la discipline historique pendant près d'un siècle, malgré des occasions manquées, devient une parole, là, la parole des témoins, une parole attestataire. Et autour des années 2000, s'enclenche en France une phase de patrimonialisation des témoignages oraux, désormais comme si, considérés vraiment comme des archives orales. Donc, ce qui m'a intéressée là-dedans, en écoutant cette archive-là, finalement, c'est que elle est contextualisée à la fin des années 90 et qu'elle révèle aussi ces mouvements de fixer cette mémoire-là pour la transmettre. Et là, c'est la transmettre non pas à une classe, mais à un élève, un lycéen. Et voilà. Et pour moi, ça résonne de cette façon-là. Et peut-être vous dire que les archives orales, en fait, ça désigne une catégorie à part entière. En fait, on les distingue vraiment des archives télévisuelles, radiophoniques. Et bien qu'il n'existe pas de définition légale, les chercheurs en sciences sociales s'accordent à désigner les archives orales comme les témoignages recueillis dans un but de documentation scientifique et dans un souci patrimonial. Et ce témoignage oral de Philippe Blanc, il fait écho de différentes façons aux campagnes de collecte au plan national dans les années 90. Dans le documentaire de Marie lui-même, à la fois il fait écho aux propos édités, lus par Marie et Bernadette, et aussi aux récits croisés que Marie collecte. Et ce témoignage donne aussi corps par le jeu, Philippe Blanc dit jeu, à des archives publiques écrites institutionnel, et nous allons le voir puisque Marie met aussi en résonance des archives écrites, publiques. Et finalement, le récit de Philippe Blanc donne corps à des éléments peut-être plus froids, plus factuels, plus distanciés, qui sont présents dans ce qu'on identifie comme le fond du mémorial de l'oppression, qui apparaît dans la conclusion du documentaire de Marie.
En hommage au mémorial de l'oppression, initié par Yves Farge, commissaire régional de la République. Le mémorial lance des enquêtes sur le terrain en 1944. En voici un extrait. Villard-de-Lans, 25 et 26 octobre 1944. Voir Monsieur Philippe Blanc, Chalet, Les Sapins, qui a fait partie des équipes d'urgence et a procédé aux exhumations. Philippe Blanc signale qu'un général allemand, voyant des croix, fait démolir ces croix.
Alors, ce fond, en fait, dit du mémorial de l'oppression, alors Philippe Anus en parlera peut-être différemment de moi, mais ce fond rassemble les archives qui ont été produites par le service du même nom, qui est rattaché au commissariat de la République de la région Rhône-Alpes. Ce service devient, par ordonnance du 14 octobre 1944, la délégation régionale du service de recherche des crimes de guerre ennemie, dépendant du ministère de la Justice. Et Pierre Mazel, qui est professeur à la faculté de médecine de Lyon, est nommé à la tête du mémorial par le commissaire de la République Yves Farge et assume ensuite le poste de délégué régional donc du service de recherche. Et la mission de Mazel consiste à réunir et de contrôler tous les faits contraires aux droits des gens et exorbitants des lois de guerre perpétrées au cours de l'occupation dans la région Rhône-Alpes. Et pour ce faire, il doit rassembler les preuves de toute atteinte aux libertés individuelles, à la dignité humaine, à la barbarie. Et donc, en fait, ce fonds-là, il est conservé aux archives départementales du Rhône. Et en fait, on trouve mention de Philippe Blanc à plusieurs reprises dans ce fonds d'archives publiques. La première dans un compte-rendu du voyage dans le Vercors en octobre 1944, où il est indiqué que Philippe Blanc est une personne à interroger et qu'il contient des photographies. D'où l'hypothèse selon laquelle peut-être les photographies qui se trouvent aussi dans le fonds de Maryse sont peut-être de la documentation aussi produite par Philippe Blanc lui-même. Ça nous indique, en fait, c'est un document c'est la page de garde, en fait, qui indique à la fois les comptes rendus de Mazel, mais aussi les enquêtes menées par les équipes d'urgence coordonnées par Philippe Blanc. Ça, c'est un document en fait qui est produit par donc le service du mémorial et qui indique effectivement que Philippe Blanc détenait peut-être des photographies et donc en fait Philippe Blanc est clairement identifié comme quelqu'un à interroger et donc la seconde mention, c'est effectivement le rapport des équipes d'urgence de la Croix-Rouge. Donc je vais passer sur peut-être qu'on pourra en discuter sur les documents, ça pourra faire l'objet d'une discussion sur les documents qui composent ce fonds. Mais pour moi c'était important de dire que aussi en filigrane ces archives publiques là et administratives sont également entrent aussi en résonance avec ce témoignage oral de Philippe Blanc qui donne corps. Des documents issus d'autres fonds d'archives publiques sont convoqués dans le documentaire. Philippe Carençon précise lorsqu'il intervient lors d'un atelier radio amateur, il dit « J'ai retrouvé dans les archives à Paris un message qui avait été envoyé d'Angleterre ou d'Alger et peut-être que Léa l'a décodé. » Et il s'agit en fait d'un document d'archives, un message codé, adressé par André Péquet, dit bavarois. Et en fait, ce message-là, en fait, il est conservé donc aux archives historiques de la Défense à Vincennes. Dans le rapport de la Croix-Rouge qui se trouve dans le fond du mémorial, on voit que ce rapport est signé de la main de Philippe Blanc. Hein. Donc l'autre archive issue de ce fond, d'un fond public, c'est donc le message codé en fait dont parle Carençon. Et ce que je trouve assez beau dans ce documentaire, c'est que Marie offre une mise en voie collective de ce document d'archive. Donc finalement, sur le rôle de cette archive-là, elle offre une sorte de réappropriation par une sorte d'atelier vocal qui constitue par là même un corps collectif qu'elle va enregistrer. C'est le passage où en fait elle propose à différentes personnes de dire des messages. C'est ça, c'est issu de messages, je me demandais si c'était... Ou ça, c'est quelque chose qui est... que tu as écrit toi, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que c'est... Je me demandais si quand même les archives, ce matériau-là, il t'aide, c'est un ancrage, en fait. C'est un premier ancrage qui te permet de déployer une esthétique et qui te permet aussi de déployer une poétique. Mais bon, voilà, du coup, tu peux...
Oui, c'était l'idée de peut-être donner à lire ce message. J'avais ça dans la tête. Et puis finalement, quelques mots plus poétiques viennent remplacer. Mais oui, c'est vraiment faire feu de tout bois et que tout surgisse d'une manière soit vernaculaire, soit vraiment endogène. Enfin, donc c'est Carençon, c'est Didier qui me guide vers cette idée de message codé. Que je donne à lire, voilà. Et dans la voix, plus tard, il y a un message codé, vraiment, quand il nous reste 3 minutes de tir seulement. Ça, c'est vraiment un message qui a été envoyé.
Il est dans le livre de Vernon.
Ah, d'accord. 3 minutes de tir seulement, ça, c'est vraiment...
Et après, donc du coup, tu pars de ce matériau-là, de ce document-là, écrit. Et tu fais deviner, en fait, par un principe d'écoute réactivée que t'affectionnes aussi, où tu proposes aux personnes voilà, que tu rencontres et que tu enregistres, tu leur proposes d'écouter une archive. Et il se trouve que à Didier, du coup, Carençon, c'est ça ? Tu lui fais écouter une archive et tu lui fais deviner une archive orale.
Je te fais juste écouter quelque chose.
Eh bien, donc j'avais Long m'avait donné le commandement de l'équipe radio. Et nous étions en effet fort occupés car il m'avait chargé de toutes ces liaisons avec Alger et Londres. Et Descours, commandant la région R1 et R2, avait ordonné que toutes les demandes de matériel passent par la mission Eucalyptus. Donc, beaucoup de messages. Et nous avions beaucoup de travail. Alors, on m'a adjoint un maquisard appelé Bourdon, qui avait été radio, donc qui pouvait également transmettre.
Tu sais qui c'est ?
Pareil, peut-être, non ? Bavarois. Donc, c'était...
Bon, tu lui donnes à entendre et en fait, finalement, ça, tu donnes corps à travers cette écoute-là à une autre archive qui t'a servi d'ancrage. Et en fait, il est question dans ce message-là de fréquence, en fait. Et en fait, pour moi, là, l'archive, elle est vraiment support à la composition pour créer un point de rencontre, établir un contact, puisque c'est une matière après que tu vas sculpter en entrecoupant le son à partir du contenu narratif de l'archive elle-même. C'est le moment où on entend da, 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 da. Et tu fais un travail rythmique à partir de ces propos-là. Et pour moi, du coup, là, le rôle de l'archive, il est aussi précieux parce que tu l'explores dans sa dimension esthétique et voilà, dans tout ce que ça ouvre aussi. Voilà, et donc cet extrait-là, ce témoignage-là de Péquet, il est conservé au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, et il a été enregistré dans les années 90. Donc ça vient aussi en résonance à toutes ces campagnes de collecte que j'ai évoquées juste avant, réalisées par, là, il s'agit d'un témoignage, donc il y a la notice archivistique là sur la slide, voilà, qui montre un petit peu, qui révèle un peu le contexte d'enquête à l'échelle nationale dans les années 90 où on va, collecter un matériau à la fois pour illustrer des expositions, pour illustrer un ouvrage. On va peut-être donner à entendre ce matériau au plan sonore, mais peut-être qu'on va le transcrire. Et en fait, cette collecte-là, elle correspond à l'enclenchement de cette période de patrimonialisation, des témoignages oraux. Et donc le musée incarne aussi ça, puisque cette enquête-là, elle est commanditée par les amis du musée, entre autres. Donc, pour conclure, parce que le temps passe... Je m'appuierai sur la conclusion du documentaire de Marie lui-même. Il est fait donc mention de l'initiative de Yves Farge avec le mémorial de l'oppression. Et en fait, cette initiative-là, qui est de collecter des preuves, elle entre en résonance avec des initiatives d'enquête orale en France à la même période, car le mouvement de la résistance, entre autres, a fait l'objet de nombreuses collectes de documents et de témoignages, et ce, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans les années 90, évidemment, il y a eu des campagnes de collecte, mais dès 1944, il y a des comités qui sont mis en place de manière assez pionnière pour collecter des témoignages de résistants, de déportés, de victimes de guerre. Et la commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, qui devient ensuite le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, conduisent des collectes d'enquêtes orales qui sont conservées donc désormais aux archives nationales. Et en fait, ces collectes-là, elles ont été produites dès la libération, en fait. Et c'est une méthode de collecte à des fins patrimoniales qui se met en place. Et il s'agit d'une véritable entreprise engagée dans l'urgence, avec dès le départ cette dimension mémorielle, fondée sur une organisation qui se veut la plus rationnelle et efficace possible. Et la méthode finalement des comités correspond à celle des enquêtes orales, celle utilisée aujourd'hui pour la réalisation des entretiens, bien que la méthode qui soit appliquée diffère sensiblement de l'usage actuel, puisque les entretiens étaient la plupart du temps réécrits par les enquêteurs, qui assortissaient parfois d'impressions personnelles sur la personne interviewée. Mais bon, en dépit de ces réserves-là, et plus largement de toutes celles qui s'appliquent donc au témoignage oral, hein, même quand il est fidèlement retranscrit, la valeur du corpus collecté, hein, est immense. Et c'est pas anodin si ces témoignages-là sont confiés dans les années 80 en France aux archives nationales, puisque les années 80, c'est vraiment la période où, en fait, on passe de des termes témoignage oral, source orale, histoire orale, à archive orale. Et donc, ce terme, il implique bien l'idée de document, de la nécessité d'une chaîne de traitement archivistique et d'une ingénierie aussi derrière. Et dès lors, en fait, c'est aussi, on embarque les archivistes là-dedans, et ce terme se forge, et la période des témoins, la parole des témoins, pardon, devient vraiment une source historique à part entière. Donc voilà, à tous ces titres, pour moi qui ai écouté ce documentaire avec les oreilles d'une archiviste, ça a mis tous ces corpus en résonance, en plus de cette résonance dans le documentaire lui-même. Voilà, donc c'est une intervention un peu sèche d'archiviste, mais...